BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Vous le savez, ce matin, BFM Patrimoine vous accompagne au cœur de votre déclaration d'impôt. Durant les 2 heures de l'émission, on répond à toutes ces questions que vous nous avez envoyées ces derniers jours pour tout savoir sur la façon de remplir au mieux cette fameuse déclaration d'impôt sur le revenu. On reste ensemble donc jusqu'à midi. Et pour entamer cette deuxième heure de l'émission, c'est bien sûr Faiza Younzi qui nous livre toute l'actualité éco.
BFM Business, l'info éco.
Et à la une, le projet de loi sur le partage de la valeur présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Un projet fidèle à l'accord qui a été conclu en février entre syndicats et patronat. L'objectif est de généraliser le partage des bénéfices des entreprises aux salariés à travers l'intéressement, la participation ou encore les primes. Les dividendes versés dans le monde au premier trimestre battent encore un record. Ils dépassent les 326 milliards de dollars. Un chiffre en progression de 12% sur un an, dopé notamment par les dividendes versés par les banques, les groupes pétroliers et les constructeurs automobiles. L'inflation britannique passe sous le seuil des 10%, première fois sous ce seuil depuis le mois d'août. Mais la hausse des prix reste élevée, plus 8,7% sur un an en avril. C'est la plus forte inflation des pays du G7. Les prix alimentaires notamment continuent de flamber à quasiment plus 20% sur un an. Toujours au Royaume-Uni, 5 grandes banques internationales sont accusées d'entente sur le marché obligataire. L'autorité britannique de la concurrence a engagé une enquête approfondie. Elle concerne Citi, Deutsche Bank, HSBC, Morgan Stanley ou encore Royal Bank of Canada. Leurs traders auraient échangé des informations sensibles sur les transactions d'obligations d'État entre 2009 et 2013. Dans le secteur des puces, Apple signe un méga contrat avec Broadcom pour plusieurs milliards de dollars et sur plusieurs années. Apple qui essaie de diversifier ses fournisseurs hors de Chine, le fabricant américain de semi-conducteurs, doit notamment lui fournir des composants qui servent à capter la 5G. La course à l'intelligence artificielle anthropique, le rival de ChatGPT, vient de lever 450 millions de dollars. L'entreprise a été fondée par d'anciens dirigeants d'OpenAI à l'origine de ChatGPT. Anthropic est soutenu par Google. Et on termine avec le partage de comptes sur Netflix. C'est terminé. La plateforme a restreint le partage de mots de passe hors du foyer dans plus de 100 pays, dont la France. Pour le partager, il faudra désormais débourser 6 euros de plus par mois. Plus de 100 millions de foyers partageaient leurs comptes, ce qui pesait sur la capacité de Netflix à investir dans de nouvelles productions.
Merci beaucoup Faiza. On se retrouve bien évidemment chaque heure avec vous pour lire l'actualité économique et nous, on file faire un détour sur les marchés.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
Allez, on file à Nantes, où Ports-en-Part nous ouvre les portes de sa salle de marché. On le retrouve, Alexandre Ledrogoff. Bonjour Alexandre.
Bonjour Cédric.
Bon, on fait un peu grise mine ce matin.
Oui, c'est un marché parisien en petite forme ce matin. Alors dans des volumes plutôt actifs puisque l'on traite autour de 700 millions d'euros sur la plateforme Euronext. Alors ce matin, on sent que le temps presse pour qu'un accord soit trouvé aux États-Unis sur le plafond de la dette américaine et que la date butoir fixée au 1er juin par la secrétaire au Trésor Janet Yellen fait clairement monter le stress sur les marchés avec des reculs assez importants sur le secteur de luxe qui pourrait pâtir des conséquences en cas d'absence de compromis. Alors l'autre catalyseur du jour pour les investisseurs, va concerner le compte-rendu ce soir des minutes de la Fed, qui devrait nous apporter un peu plus de couleur sur la nécessité ou non de relever davantage les taux d'intérêt. Eh bien, cette attente pèse également sur les cours ce matin. Alors, dans ce contexte, les niveaux supports à surveiller sur le CAC 40 sont situés autour des 7260. Sous ce seuil, le marché parisien pourrait glisser assez rapidement vers les 7002. C'est un gap laissé ouvert lors de la séance du 30 juin dernier.
Voilà donc quelques idées sur cette séance et un petit mot de chargeur.
Oui, alors chargeur qui recule de quasiment 9%. La société a publié ce matin un chiffre d'affaires T1 en retrait de plus de 16% à 169 millions d'euros. C'est une déception. La société a souffert d'une base de comparaison particulièrement défavorable sur la quasi-intégralité de ses métiers. Et ce qui pénalise également le titre ce matin, eh bien c'est le message de prudence délivré par le management de la société, même si le second semestre de l'année devrait être mieux orienté. Alors, malgré ce contexte difficile, notre analyste reste à l'achat avec un objectif de cours à 24,50 euros.
Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Ledrogoff et Ports-en-Part qui nous accompagnaient ce matin. Le marché parisien, on le rappelle, en recul d'un 27%, 7285 points.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
Et c'est à présent Taline Melkonian qui nous accompagne dans cette édition spéciale. Bonjour Taline.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous pour l'ingénierie patrimoniale de Degroff Petercam. Période de déclaration donc bel et bien ouverte. Hein. Les résistants de la déclaration papier, c'est déjà terminé depuis quelques heures. Mais il y a d'autres échéances en cours. Quelles sont-elles ?
Donc en effet, pour la déclaration papier, c'était avant-hier, donc là c'est trop tard, il va réellement falloir se rabattre sur la déclaration
sur
en ligne. Il y a une distinction à faire, donc il y a la deadline qui concerne les non-résidents, car il ne faut pas oublier que les non-résidents sont également, dans certaines situations, obligés de déposer une déclaration en France. La date limite pour les non-résidents est fixée au 25 mai. Quels sont les actifs ou les revenus qu'ils doivent déclarer ? Ce sont, au regard de l'impôt sur le revenu, tous les revenus de source française, par exemple les revenus fonciers, et au regard de l'IFI, tous les actifs immobiliers situés en France. Donc ça, c'est pour les non-résidents, 25 mai. Pour les résidents fiscaux français, en effet, eux, ils avaient l'opportunité d'éventuellement déclarer en papier, mais là, c'est trop tard, hein, c'était donc lundi dernier. Seuls étaient autorisés à faire une déclaration papier les contribuables dont le foyer n'était pas équipé d'Internet, hein, ce qui aujourd'hui commence quand même à être rare. Donc restent maintenant les échéances en ligne. Il y a trois dates à retenir en ce qui concerne, qui dépend du département où vous habitez, donc du département...
C'est traditionnel.
Oui, c'est traditionnel, donc c'est le 25 mai, département jusqu'à compris jusqu'à 20. Ensuite, c'est le 1er juin pour le département 20 à 54. Et ensuite, c'est le 8 juin. Ce qui est intéressant aussi à rappeler, c'est que tout le monde est obligé de réaliser une déclaration d'impôt sur le revenu, tout résident fiscal français. Mais sachez que seulement 43% des contribuables payent de l'impôt en France.
Il y a une autre échéance, c'est celle du 1er juillet. Là, c'est un peu une nouveauté, hein.
Oui, alors en effet, il y a une nouveauté cette année qui est en lien avec toutes les abattements et les suppressions dans le temps de la taxe d'habitation. Donc, on a une nouvelle déclaration à compléter. Elle se complète sur l'espace impôt gouffre.
Elle n'est pas dans la déclaration, mais enfin, tant qu'on est connecté, autant...
Oui, vous avez raison de le rappeler, ce n'est pas dans la déclaration, mais en effet, c'est sur l'espace impôt gouffre. Il y a un onglet qui s'appelle « Déclarer les biens immobiliers ». Et donc, on ne déclare pas à proprement parler les biens immobiliers, mais on déclare l'occupation qui en est faite. Donc, soit c'est une occupation à titre personnel, résidence principale, résidence secondaire ou tout simplement un bien vacant, soit c'est un bien qui est mis en location, auquel cas on déclare l'occupant. À quoi sert cette déclaration ? Elle sert finalement à l'administration fiscale à fiabiliser la base de données qu'elle a pour pouvoir donc derrière émettre les taxes d'habitation. Quelle est la deadline ? Vous l'avez rappelé, donc deadline c'est au 1er juillet, c'est ouvert depuis le 1er janvier, mais la deadline est fixée au 1er juillet. Et la sanction en cas de non-déclaration est de 150 euros, mais l'administration fiscale a d'ores et déjà dit que compte tenu du fait que c'était la première année, qu'il y aura probablement une certaine tolérance pour les personnes qui oublieraient...
Qui n'auraient pas vu...
Qui oublieraient de déclarer, oui.
Qui n'auraient pas écouté BFM Business. Bon, ça arrive, il y en a, il paraît. C'est dommage pour eux, mais c'est comme ça. Revenons-en à la déclaration d'impôt en elle-même. On suit les pages qu'on nous propose, on remplit les cases qu'il faut remplir. Parfois, on peut faire des oublis et il y en a certains qui peuvent coûter cher. À quoi faut-il être particulièrement attentif, Taline ?
Alors, en fait, il faut être attentif parce que, comme vous le dites, tout est pré-rempli. Alors, on peut avoir le sentiment qu'au fait, c'est réglé, on ouvre son espace, on clique sur OK et on passe à autre chose. Et malheureusement, tout n'est pas pré-rempli. On pourrait même se demander s'il n'y a pas certains pièges posés par l'administration fiscale, mais ça, c'est un autre débat. Et ce que nous, on voit, le problème auquel on voit... auxquels sont souvent confrontés les contribuables, c'est la non-déclaration des comptes ouverts à l'étranger. Aujourd'hui, il est assez usuel d'avoir des comptes à l'étranger, c'est tout à fait légal. Vous avez le droit, en tant que résident fiscal français, d'ouvrir un compte dans le pays où vous le souhaitez.
Oui, on a eu longtemps l'impression, avec les fantasmes autour des comptes suisses, etc., qu'on n'avait pas le droit de détenir un compte à l'étranger. On a le droit, c'est de le déclarer.
Le tout, c'est de le déclarer. Et donc, en effet, on a cette obligation déclarative, c'est la déclaration 3916, Et il suffit de cocher une case et donc de remplir par compte utilisé, ouvert, utilisé ou clos sur l'année civile, une déclaration sur l'impôt, une déclaration spécifique. Donc cette déclaration-là, il faut absolument la compléter parce que si vous évitez de la déclarer, vous serez soumis à une sanction de 1 500 € par compte ouvert. Et ça peut aller très vite.
Ouais, c'est ça.
on pense par exemple au compte type Revolut. C'est vrai que tous ceux qui ont des enfants qui partent étudier à l'étranger...
Ouais, toutes les néobanques sont souvent situées à l'étranger.
Et on s'en rend même pas compte, ouais, parce qu'on l'a ouvert, nous, sur le territoire français. On n'a pas nécessairement regardé quel était le RIB attaché. Donc, en effet, il faut bien regarder l'IBAN, le RIB, pour voir quelles sont les deux premières lettres, et ne pas oublier de déclarer. Et là où c'est vraiment, je vous disais, on peut même avoir le sentiment que c'est un piège qui a été posé par l'administration fiscale. Pourquoi ? Parce qu'il faut que vous sachiez que tous les établissements bancaires européens, il y a environ 100 pays, hein, donc ça va bien au-delà de l'Europe, ont ce qu'on appelle le Common Reporting Standard. Donc, en fait, ils sont obligés de reporter à l'administration fiscale les comptes qui sont ouverts en leur livre pour des résidents fiscaux français. Donc l'administration fiscale, elle a l'information.
Mais elle ne vous l'affiche pas.
Elle ne vous l'affiche pas. Et vous, très facilement, vous pouvez le mettre. La facture peut être assez salée.
Et notamment, on pense aussi à tous les comptes crypto, etc., qui peuvent être ouverts par vos bambins et qui sont en fait à l'étranger.
Exactement.
Donc attention effectivement à tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres conseils en cette période ?
Oui, en effet, il y a d'autres points sur lesquels il faut être attentif, c'est-à-dire que la déclaration d'impôt sur le revenu, elle est pré-remplie. Mais une fois de plus, tout n'est pas nécessairement pré-rempli et tout n'est pas nécessairement pré-mâché pour le contribuable. Il y a un premier sujet auquel il faut être attentif, c'est voir à chaque fois, selon la situation qui est la nôtre, si on a intérêt à laisser les revenus financiers qu'on a perçus sur l'année, les laisser soumis à la flat tax, ou si au contraire on a un intérêt à opter pour le barème progressif de l'impôt sur revenu. Ça, à chaque fois, il faut le vérifier. En règle générale, lorsqu'on perçoit des revenus professionnels, on a plutôt intérêt à les laisser à la flat tax, mais il y a des cas dans lesquels, ou pour une raison ou une autre, sur une plus-value, on peut bénéficier d'un abattement très important, où ça peut être intéressant quand même d'opter pour l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il faut vérifier. Ensuite, il y a d'autres petits points, des petites mesures qui ne représentent pas de sommes importantes, mais qui, mis à bout, peuvent être intéressantes. Premièrement, les frais professionnels. La majorité d'entre nous ne fait rien, ne coche même pas la case, on est aux frais abattement forfaitaire, ouais. On a une déduction de 10% sur notre salaire au titre des frais professionnels. Il peut s'avérer intéressant, dans certains cas, de faire un peu les comptes d'apothicaire, de garder au courant de l'année tous les reçus et de déduire un certain nombre de frais qu'on a le droit de déduire. Je pense notamment à l'utilisation du véhicule pour se rendre sur le lieu du travail. Je pense notamment aux repas pris sur le lieu du travail ou, par exemple, des frais d'achat de tenues ou autres. Donc, ça peut, dans certains cas, être intéressant. Il y a un autre sujet à côté lequel passent beaucoup de contribuables. Ce sont les frais de scolarité. Donc il faut que vous sachiez que lorsque vous avez des enfants qui sont collégiens, lycéens ou qui suivent des études dans l'enseignement supérieur, vous avez une case à cocher et ça vous permet d'avoir une déduction qui varie de 68 à 150 €, je pense. Et force est de constater qu'on a environ 8 millions d'enfants qui pourraient en bénéficier et seuls 5 millions d'enfants sont déclarés. Ah, donc, oui. Ça veut dire que vous avez quand même 3 millions
de gens qui cochent pas la case.
Les parents ne cochent pas la case. Alors, bon. Ce ne sont pas des sommes très importantes, mais ça permet toujours de déduire un peu la facture. Et le dernier point sur lequel également je voulais attirer votre attention, c'est sur les dons aux associations. Là encore, les dons aux associations, vous recevez des CERFA et ensuite, selon l'organisme auquel vous avez effectué le don, vous avez le droit de bénéficier d'un abattement de 75% ou 66%. Là encore, vous prenez tous vos CERFA, vous additionnez les montants ou vous les mettez dans les bonnes cases. Force est de constater qu'il y a environ, chaque année, 2 milliards d'euros de dons qui ne sont pas déclarés.
Donc les gens perdent le bénéfice de l'avantage fiscal. Bon, donc on a déclaré, on a quelques dons qui nous permettent de réduire nos impôts, etc. Mais voilà, on va cliquer en bas et on aura le montant de notre impôt. Et on peut se dire, tiens, il y en a quand même pas mal, je pourrais peut-être réduire tout ça en faisant un don, en faisant un investissement. C'est encore temps là ou...
Alors, concernant l'impôt sur le revenu, c'est trop tard. C'est donc, les dons qui sont pris en compte, ce sont ceux qui sont effectués sur l'année civile. Donc, concernant l'impôt sur le revenu, éventuellement...
Il fallait le faire avant le 31 décembre.
Il fallait le faire avant le 31 décembre. Éventuellement, vous pouvez vous poser la question de savoir s'il est opportun de détacher de votre foyer fiscal un enfant majeur. Ça dépend si vous lui avez versé... une pension alimentaire ou pas, là ça peut avoir un sens, mais sinon au regard de l'impôt sur revenu, on va dire que la messe est dite.
La messe est dite.
Cependant, en effet, au regard de l'impôt sur la fortune immobilière, là vous pouvez encore réaliser des dons. Il faut bien vérifier que l'organisme qui reçoit le don est éligible. Et là, vous pouvez bénéficier encore d'une réduction d'impôt de 75% du montant que vous avez donné dans la limite de 50 000 euros.
Donc, pour l'IR, c'est trop tard. Pour l'IFI, on peut encore. Merci beaucoup, Taline.
Merci, Cédric.
Taline Melkonian est l'ingénierie patrimoniale de De Groff Petercam qui nous accompagnait ce matin dans cette édition spéciale. Merci et bon retour au bureau. Bon travail et à la prochaine sur l'antenne, bien évidemment. Le marché, lui, est en repli d'1,5%, 7 268 points.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
Et ce sont toutes les ingénieries patrimoniales parisiennes, ou presque, qui sont à nos côtés pour vous rendre service ce matin. Et c'est donc Aurélie Alamijon que l'on retrouve maintenant. Bonjour,
bonjour
Aurélie.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Natixis Wealth Management. On donnait quelques clés avec Taline il y a un instant. On continue avec vous. On va explorer certaines spécificités de cette déclaration, que ce soit sur les revenus ou que ce soit sur l'IFI, un petit peu sous le vocabulaire de la gestion de fortune. Commençons par l'IR avec les revenus de capitaux mobiliers. Là, tout est pré-rempli, donc on se dit ça doit être simple, il n'y aura qu'à cliquer.
Fausse bonne idée, en fait. Ah, oui, effectivement, c'est pré-rempli, donc on pourrait penser que c'est simple et qu'il n'y a rien à faire.
Pourtant, ne pas être en roue libre.
Complètement, parce qu'il est de la responsabilité de chacun de vérifier non seulement l'exactitude, mais aussi l'exhaustivité des revenus. En l'occurrence, là, vous citez les revenus de capitaux mobiliers, les dividendes, les intérêts, les coupons d'obligations. Il faut vérifier que tout y est bien, parce que certains revenus peuvent ne pas y figurer. Donc, il faut les rajouter. Et pour tout ça, en fait, il faut bien comprendre comment ça fonctionne, comment sont imposées chaque catégorie, en fait, comment est imposée chaque catégorie de revenus, et comment en faire la traduction au plan de la technique déclarative.
Alors ça, justement, on compte sur vous, rappelez-nous les règles.
Alors, si on regarde déjà les revenus de capitaux mobiliers. Alors, les revenus de capitaux mobiliers donc, de l'année 2022, qui vont faire l'objet de la déclaration 2023, par principe, ils sont soumis à la flat tax, donc au taux de 30%, qui correspond en fait à l'agrégation du taux forfaitaire de 12,8%, qui représente l'impôt sur le revenu, qu'on connaît sous le vocable prélèvement forfaitaire unique, PFU, plus les prélèvements sociaux au taux de 17,2%.
Bien sûr.
Ça, c'est le principe. Mais le contribuable peut, à la place du taux de 12,8%, choisir le barème progressif s'il y a un intérêt. Et ça a peut-être été déjà rappelé, mais c'est bien de le redire. Le choix pour le barème progressif, c'est un choix qui doit se faire en connaissance de cause, en ayant préalablement modélisé les conséquences de ce choix-là, plutôt que le prélèvement forfaitaire unique, voir vraiment si on a une économie à réaliser. Parce que c'est une option qui est irrévocable et qui surtout est globale. C'est-à-dire que si on fait le choix du barème progressif pour un dividende, ça emportera application du barème progressif pour l'ensemble des autres revenus financiers, plus-value, autres revenus de capitaux mobiliers, type intérêt, qui normalement seraient aussi par principe soumises à la flat tax. Donc ça, c'est le premier point.
Mais on doit faire le calcul nous-mêmes ou le site des impôts nous permet de simuler
alors,
un peu.
Alors, on peut regarder effectivement sur...
On peut faire une première
site,
déclaration
on peut faire,
avec...
Voilà, on peut faire maintenant qu'en plus les revenus 2002, l'année est passée, on a l'ensemble des revenus, on a connaissance de l'ensemble de ces revenus, donc il faut faire le calcul. Voilà. Après, il y a la technique déclarative. Comment les déclarer, ces revenus-là? Alors là, ça se passe en fait pour les revenus de capitaux mobiliers en deux temps, sur deux années. Il y a l'année de perception du revenu, donc en l'occurrence l'année 2022, où quand le contribuable va percevoir ses intérêts, ses dividendes, en fait, l'établissement payeur de ses revenus va retenir à la source un acompte qui est de 12,8% plus les prélèvements sociaux, au taux de 17,2%. Et donc, on va reverser dès l'année de perception du revenu, donc dès 2022, 30% à l'administration fiscale. Ça, c'est la première chose. L'année suivante, en 2023, il se passe deux choses. La première, qui ne concerne pas le contribuable, mais qui concerne en fait les établissements financiers qui vont verser ces revenus-là, les banques, les compagnies d'assurance, qui vont transmettre à l'administration fiscale en fait un récapitulatif pour l'ensemble de leurs clients, donc pour les contribuables, des revenus, des opérations qui sont intervenues sur les valeurs mobilières et les revenus de capitaux mobiliers. De sorte que c'est grâce à ça, à ces informations-là, que l'administration va pouvoir pré-remplir ce qui arrive pour chaque personne. Et en fait, on a sa déclaration pré-remplie. Et ensuite, au mois de mai-juin 2023, donc maintenant, le contribuable va décider s'il soumet ses revenus-là à la flat tax ou bien s'il opte pour le barème progressive de l'impôt sur le revenu. S'il choisit la flat tax, a priori, il n'a rien à faire, si ce n'est quand même à vérifier que tous les revenus y sont et que les bons montants sont bien remplis dans les bonnes rubriques, que les revenus de capitaux mobiliers ont bien été identifiés comme ayant déjà été soumis aux prélèvements sociaux et que le prélèvement de 12,8%, l'acompte à la source, a bien été mentionné. Et puis après, il n'a même pas le contribuable, dans ce cas de figure-là, d'impôts supplémentaires à payer sur ses revenus, puisque l'acompte a déjà été prélevé l'année dernière. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, s'il choisit d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu...
Donc ça veut dire qu'il serait plus intéressant ?
Voilà. Donc... Eh bien, il doit cocher la case 2OP dans son imprimé CERFA 2042 pour dire « j'opte pour le barème progressif ». Et là, puisqu'a priori c'est plus intéressant et qu'il devrait en résulter une charge fiscale moins importante du fait de l'application du barème, il aura droit à une restitution du surplus d'impôt payé par rapport à l'acompte de l'année dernière. Donc ça, c'est pour les revenus de capitaux mobiliers.
Pour les plus-values, c'est le même scénario ?
Alors, il y a des ressemblances, mais il y a des grandes différences quand même. Parce que pour les plus-values...
Ce serait trop simple, hein, sinon.
Ça serait trop simple, ça serait trop facile. Pour les plus-values, en fait, une plus-value va être soumise aussi sur cession de titres, d'actions, droits sociaux, va être soumise aussi à un principe de taxation à la flat tax, donc 12,8 plus 17,2. Mais le contribuable, encore une fois, peut opter pour le barème progressif à la place des 12,8%, s'il y a un intérêt. Et il y aurait un intérêt. Pourquoi ? Parce qu'il pourrait peut-être bénéficier, si les conditions sont remplies, d'un abattement pour durée de détention qui viendrait minorer la base taxable en matière d'impôt sur le revenu à soumettre au barème progressif, et uniquement lui, hein, parce que les prélèvements sociaux, ils restent dus sur l'intégralité de la plus-value. Et puis parce que, quand on opte pour le barème progressif, on peut aussi prétendre à bénéficier d'une déductibilité d'une quote-part de CSG. Donc, s'il y a un intérêt, ce qu'il faut évidemment vérifier par un calcul précis, on peut choisir à ce moment-là le barème progressif. Mais j'ai oublié de préciser que l'abattement pour durée de détention, c'est uniquement si on vend des titres que l'on a acquis avant le 1er janvier 2018.
D'accord.
Voilà. Et puis après, y a la technique déclarative. Comment déclare-t-on des plus-values ? Et là, c'est différent des revenus de capitaux mobiliers. Parce que dans les revenus de capitaux mobiliers, je vous ai expliqué, il y a ce système d'acompte l'année du versement.
Et là, il n'y a pas.
Et là, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, tout va se jouer l'année 2023, si je suis une plus-value 2022, c'est-à-dire l'année suivant celle de la réalisation de la plus-value. Voilà.
D'accord.
Et donc, là, après, il faut voir quel type de plus-value on a.
Mais bon, s'il y a des plus-values, il peut aussi y avoir des moins-values.
Oui, tout
là
à
aussi,
fait.
On peut les c'est à ce moment-là qu'on les impute ?
Oui, en fait, ce qui va se passer, dans les plus-values, il y a deux types de plus-values déjà. Il y a celles qui ont pu être calculées par un intermédiaire financier, une banque, etc. Donc là, on se réfère au calcul qui a été fait a priori par l'établissement financier. Puis, parfois, la plus-value n'a pas été calculée par un intermédiaire. C'est au contribuable de le faire sur un imprimé CERFA 2074. Par exemple, la personne qui cède ses titres, qui cède son entreprise. Donc, elle doit déclarer et calculer elle-même sa plus-value, ce qui est quand même un calcul complexe, par différence entre un prix de cession et un prix de revient. Ça paraît simple comme ça, mais en pratique, c'est subtil et c'est technique. Et après, il y a effectivement ce jeu des moins-values. On va commencer par imputer les éventuelles moins-values de la même année. C'est-à-dire que si j'ai une plus-value 2022, je vais commencer prioritairement par imputer une moins-value 2022 sur cette plus-value 2022. Et si à l'issue de cette compensation, il me reste encore une plus-value, je vais regarder si dans mon stock des moins-values des années antérieures, si j'ai pas encore une moins-value à imputer, qui n'aurait pas encore été imputée sur ma plus-value 2022.
Parce que le stock, il dure 10 ans.
Donc là, on peut regarder jusqu'en 2012 inclusivement. Donc, ça vaut quand même la peine de regarder.
Il peut en rester qui traîne.
Il peut en rester, voilà. Et puis après, y a éventuellement le jeu de l'abattement pour durée de détention qui viendra, en fait, réduire le montant issu de cette compensation de la moins-value avec les plus-values et sous réserve, évidemment, encore une fois, de cocher la case 2OP pour signifier que qu'on choisit le barème progressif.
Voilà donc pour tout ça. On passe à l'IFI, qui se déclare en même temps que les revenus. En quelques mots, d'abord, qui est concerné ?
Alors, l'IFI, donc là, c'est l'IFI 2023. Il n'y a pas de décalage d'imposition. C'est la photographie de son patrimoine au 1er janvier 2023. Donc, seront concernés les contribuables personnes physiques qui auront un patrimoine à cette date-là, net imposable, immobilier, supérieur à 1,3 million. Voilà. Donc, on va tenir compte du patrimoine des enfants mineurs. On exclut le patrimoine immobilier imposable des enfants majeurs. Et petite subtilité, enfin, il faudrait vraiment rentrer dans les détails, mais quand on a un démembrement de propriété, si par exemple on est usufruitier d'un actif immobilier, c'est en principe à l'usufruitier qu'il incombe de déclarer le bien, la valeur du bien, en pleine propriété.
Voilà. D'accord.
Donc ça, c'est en gros les personnes concernées.
Donc, vous avez évoqué ce seuil d'1,3
million, voilà, qui déclenche.
D'euros qui déclenche. Hein. Mais si on est concerné, on est imposé...
Ah, bien avant.
Bien avant, c'est ça.
Hein. Oui, bien avant.
Parce on reprend qu'en fait, à partir de...
800 000 euros, ouais. En fait. Le barème commence à partir de 800 000 euros. Il y a une première tranche...
Donc, c'est le 1,3 million qui déclenche.
Voilà.
Mais après,
mais quand
on
y est, eh bien, voilà, on est taxé sur une tranche de patrimoine inférieure. La première tranche, ça doit être 0,5% de taxation. Voilà. Donc, il y a des pièges.
Oui, faut faire attention. L'IFI, comme son nom l'indique, ce sont des actifs immobiliers. Mais le champ d'application est quand même très large.
Alors oui, évidemment, c'est très large parce que
si on a un appartement, une maison, bon, ça tombe sous le sens. Mais
oui, parce que c'est de l'immobilier qui peut être détenu en direct. C'est ce à quoi on pense tout de suite. Alors, l'IFI, effectivement, c'est très large. À part, effectivement, le cas particulier de certains actifs qui pourraient se rattacher à ce que l'on appelle l'outil professionnel ou qui pourraient être affectés à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale qui serait exclue ou exonérée. Donc, effectivement, l'IFI, c'est un champ d'application très large, puisque ça va concerner des immeubles détenus directement, bâtis, non bâtis, mais aussi les immeubles détenus indirectement. Par exemple, une personne qui aurait un bien à usage locatif à l'actif du bilan d'une société civile dont il détient le capital social, quand bien même les parts de la société civile en fait constituent juridiquement des biens meubles, eh bien on va tenir compte néanmoins au plan fiscal pour l'IFI de la composante immobilière de cette société civile que l'on va appliquer à la valeur de la société pour la réintégrer dans la déclaration du contribuable. Donc c'est très large et ça quel que soit finalement le niveau d'interposition entre la personne physique et l'immeuble, peu importe le nombre en fait de structures qui séparent l'immeuble de la personne physique. Donc c'est très large.
Ouais.
Donc, il faut aussi déclarer la composante immobilière des contrats d'assurance vie en unité de compte aussi, oui. Qui est aussi rattachée. Donc c'est très large.
Bon, c'est pas simple. Juste quand on parle d'immobilier, à part quelques cas particuliers, souvent c'est associé à de la dette, à de l'emprunt.
Oui, oui.
On peut déduire tous les emprunts, certains. Enfin voilà, comment ça se passe?
Non, en fait, non. Le passif, effectivement, c'est ce qui va venir minorer l'actif, hein, pour voir si on est dans le champ de ces 1,3 million ou pas, et puis qui permettra, in fine, de déterminer la quotité, la cotisation d'impôt à régler. Les dettes, en fait, sont limitatives. Déjà, il y a des conditions, en fait, pour qu'une dette soit déductible. Elle doit exister au 1er janvier de l'année. Elle doit être à la charge personnelle du contribuable. Elle doit se rapporter à un actif taxable. On doit pouvoir la prouver et surtout il faut qu'elle fasse partie de la liste des dettes qui sont admises en déduction par la loi. Donc à ce titre-là effectivement on va trouver les dettes qui ont permis l'acquisition d'un bien type effectivement emprunt bancaire avec une petite spécificité pour les emprunts in fine parce que pour un emprunt in fine pour lequel le capital en fait
n'est remboursé est payable,
qu'à la fin on va pas pouvoir chaque année tout déduire ce qui reste à devoir, on va pratiquer un amortissement linéaire. On peut pas déduire par exemple les emprunts contractés auprès des membres de la famille sauf si on a démontré le caractère normal du prêt parce que bon ça s'est pas admis en déduction. On peut déduire aussi les dettes contractées pour l'amélioration des travaux, etc., si on peut le prouver. Certaines aussi dettes d'imposition, comme par exemple la taxe foncière, mais pas la taxe d'habitation, ni l'impôt sur les revenus fonciers, et puis l'IFI aussi, qui est déductible de ses propres bases. Mais il faut effectivement faire attention. Les dettes, c'est évidemment, comme il y a un enjeu effectivement de minoration de la cotisation, voilà, tout n'est pas déductible.
Vous en savez plus sur cette déclaration d'impôt. Merci beaucoup Aurélie.
Merci
Aurélie Alamijon et l'ingénierie patrimoniale de Natixis Wealth Management qui nous accompagnait ce matin. Dans un instant, on fait une toute petite pause dans cette spécialière et on retrouve Gilles Santacreux. Et puis ensuite, on continue bien évidemment à vous aider à déclarer vos impôts.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Allez, on file rejoindre boursicoté.com où nous attend Gilles Santacreux qui garde un œil pour nous sur la séance du jour. Séance baissière, je pense que là, on n'y reviendra pas, Gilles.
Je suis étonné que vous me disiez ça. Oui, effectivement, hein, c'est baissier, mais ce que l'on peut constater, par contre, c'est depuis environ une heure et demie, il semblerait que la volatilité soit retombée. On navigue dans 25-30 points hein, depuis une heure et demie, donc on a eu énormément de volatilité à l'ouverture et dans la première heure de cotation, et ensuite cela semble se calmer. Alors, vu que ces inquiétudes, elles viennent des États-Unis, ce que l'on peut penser, c'est que cette volatilité pourrait reprendre au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'ouverture des marchés US à 15h30. Donc à partir de 14h30, il va falloir observer un petit peu ce qui se passe pour voir si justement cette nervosité ne reprend pas. Donc tout se jouera autour de la continuité des discussions autour du mur de la dette. On a aussi la Fed hein, ce soir qui donc annoncera, on aura les minutes de la Fed. Pas de statistiques majeures cet après-midi, on aura juste les stocks de pétrole brut. Je regarde aussi ce qui se passe sur les devises puisqu'on a depuis quelques jours, eh bien, un dollar index qui est remonté d'une manière significative. On attaque la zone des 103,50. Au niveau de la paire de devises euro-dollar, on est toujours en train de tester une zone majeure à 1,0780. La rupture de ce niveau, eh bien, viendrait nous donner des signaux là aussi assez négatifs sur cette paire de devises. L'or aussi a provoqué un double appui sur une zone majeure autour des 1957-1960 dollars l'once. Donc, on est vraiment sur des niveaux de rupture potentielle. Du point de vue du CAC 40, si je reviens sur l'indice, tout à l'heure, je vous ai donné un niveau 7335 points. Tant que l'on est sous ce niveau, on est dans une dynamique baissière potentiellement forte avec une volatilité qui peut reprendre à tout instant. Ce n'est qu'au-dessus de ce niveau que l'on commencerait à calmer le jeu et à revenir sur des niveaux de cotation, je dirais, moins dangereux. Actuellement, on est en train de tester une zone à 7270 points. Si on tient compte du mouvement que l'on a eu entre le 24 mars et le 24 avril, c'est juste le retracement à 50%. Donc c'est un retracement significatif. On a une zone d'évolution qui, jusqu'à 7200 points, peut nous permettre de conserver un biais légèrement haussier d'un point de vue moyen terme. Par contre, sous 7200 points, là, les choses viendraient se gâter puisqu'on pourrait avoir donc justement ce niveau de rupture qui justifierait une reprise du mouvement baissier avec potentiellement une hausse de la volatilité. Donc, pour l'instant, on se calme sur un niveau de retracement qui était clairement identifié hein, précédemment. Mais attention donc à la reprise du marché américain cet après-midi et à une éventuelle poursuite donc de ce mouvement.
Merci beaucoup Gilles Santacreux qui nous accompagnait ce matin depuis boursicoté.com, le CAC 40 donc en baisse d'1,64 à 7257 points.
BFM Patrimoine, émission spéciale déclaration des revenus sur BFM Business.
Vous le savez, ce matin, BFM Patrimoine se met à votre service pour vous aider à déclarer au mieux vos impôts. BFM Business poursuivra avec 90 minutes business tout à l'heure cette assistance qu'on vous propose ce matin. Et on reçoit maintenant Enzo Allo. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, fondateur de Crypto Patrimoine. Et on va parler justement de ces fameuses crypto à l'heure de la déclaration d'impôts. Récemment, elles ont connu une crise sur le marché. Est-ce que ça a d'abord refroidi un peu les investisseurs français ?
On voit que ça a un petit peu refroidi, on va dire, les investisseurs retail, c'est-à-dire les plus petits porteurs, puisque au fin de compte, c'est assez contre-intuitif, mais la bonne année où il fallait investir, c'était plutôt 2022, puisque c'était peu cher comparé à 2021, qui était une année chère. Aujourd'hui, les portefeuilles qui performent le mieux, je pense, sont ceux qui ont commencé à être construits à partir de début 2022, moitié d'année 2022. Bitcoin était quand même à 16 000 $, quand il était à 60 000 en 2021, donc... C'est ça qui est un petit
peu. On rappelle qu'aujourd'hui, il est à 26 000 et quelques.
C'est ça, à peu près. Donc, plutôt, on va dire, du côté des investisseurs un peu plus professionnels, un intérêt plus poussé quand les actifs sont plus abordables. Et donc, l'année 2022, pour nous, a été quand même plutôt intéressante.
Donc, il y a toujours une appétence des Français pour ces actifs numériques.
Pour le coup, il y a deux. Alors, il y a deux sujets qui drivent un petit peu cette appétence. D'abord, la performance. C'est-à-dire que sur 10 ans, Bitcoin, c'est pratiquement 100% de performance annualisée, ce qui reste assez inédit en termes d'actifs. Et puis il y a aussi l'aspect technique de Bitcoin qui est la diversification d'actifs et qui permet d'avoir une exposition au sein d'un portefeuille qui reste intéressante. Pour des hauts revenus et des patrimoines intéressants, avoir une petite proportion de Bitcoin, 1, 2%, 3%, c'est pas quelque chose qui risque de les mettre beaucoup en risque, qui peut les exposer à quelque chose qui est en dehors des États, en dehors de la société, et qui est vraiment à part. Donc, ça reste intéressant.
On sait combien de Français détiennent des cryptoactifs ?
Alors, il y a une récente étude de l'ADAN en partenariat avec KPMG qui a été publiée très récemment, qui parle de 9,4% de Français qui détiennent des actifs numériques. Ça équivaut pratiquement à un dixième de la population française. C'est énorme, en réalité. Mmh. Compte tenu surtout de l'immaturité, en tout cas, enfin, c'est très jeune, c'est très récent comme marché. Quand on le compare au marché actions qui existe depuis des dizaines d'années et qui, lui, est plutôt investi autour de 6,5% en termes de nombre de Français. Et donc, on voit une accélération, bien entendu, très forte sur cette partie actif numérique, ça, c'est sûr.
Alors, ça, c'était un petit état des lieux. Donc, on voit que les épargnants détiennent des cryptoactifs. Ils peuvent réaliser des plus-values, et donc, on l'espère pour eux en tout cas, et donc il va bien falloir passer par la case impôts. On doit vraiment les déclarer, hein, ces cryptos.
Alors, il y a deux choses. En réalité, c'est pas très compliqué. Il y a vraiment deux choses à savoir. La première, c'est la déclaration des plateformes, qui sont généralement à l'étranger. Donc là, c'est le CERFA 3916, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, pour ceux qui font leur déclaration en ligne, vous pouvez cocher directement dans votre déclaration, c'est la case 8UU, quelque chose comme ça, qui va vous permettre directement de stipuler, en tout cas d'informer l'État, et c'est une obligation de le faire. Lorsque vous avez des comptes à l'étranger aujourd'hui, Binance, Kraken, toutes les plus grandes plateformes, même Revolut, hein, etc., doivent être déclarées. Donc ça, c'est la première chose, c'est très simple. La deuxième, c'est effectivement la déclaration de la plus-value lorsqu'on l'a fait. Donc le premier élément, c'est d'abord qu'est-ce qui déclenche cette plus-value ? C'est bien la cession, donc la vente d'un actif numérique vers une monnaie ayant cours légal. Euros, dollars, livres sterling, etc. Si je n'ai pas fait, par exemple, d'opération de ce type depuis 3 ans, si, par exemple, j'avais des bitcoins, je les ai vendus, j'ai acheté des Ethers, j'ai racheté des bitcoins, etc., tout cela ne déclenche aucune imposition sur la plus-value. En revanche, j'ai fait une plus-value sur mes bitcoins, je les revends pour acheter des euros. Là, j'ai effectivement une ligne de plus-value à déclarer à l'administration fiscale.
D'accord. Donc, les plus-values inter-crypto sont considérées comme latentes.
Exactement. Bon. Exactement. Il y a quelques petites choses, peut-être, si je peux me permettre de rebondir. Il y a aussi récemment, c'est quand même la loi 2022, le fait de pouvoir intégrer ces plus-values à l'imposition, enfin, au barème progressif sur le revenu, donc qui peut permettre de bénéficier d'une fiscalité un peu plus intéressante, okay, lorsqu'on ne dépasse pas certains montants d'imposition.
Bon, parfois, ça peut être un peu compliqué de tout calculer. Est-ce que vous pensez que le fisc sera plutôt indulgent sur ces cryptos ou pas ?
Alors, il y a une manière de voir les choses qui est que, bon, on a tous le droit à l'erreur. Alors, c'est d'ailleurs une loi, hein, qui est la loi ESSOC, qui permet de pouvoir rectifier dans le cas où on a fait une erreur. En revanche, il faut que ce soit, je pense, à l'initiative du contribuable. Si c'est l'administration fiscale qui remarque qu'il y a eu des trous dans la raquette et qui vous contacte, vous aurez un peu plus de mal à le justifier. Ça, ouais. En revanche, vous prenez le pas sur le fait, et vous pouvez même le faire aussi en ce moment dans vos déclarations d'impôts, vous avez une petite case à cocher où on va vous demander est-ce que vous êtes bien sûr, et peut-être qu'il y a des erreurs. Dans ce cas-là, on vous recontacte, etc. Donc, vous pouvez émettre le doute, et si vraiment qu'à doute...
Ah oui, vous voulez dire, je fais mon calcul aujourd'hui, mais je me dis que je l'ai fait du mieux que j'ai pu, mais que j'ai un doute, on peut dire à l'administration, se signaler.
C'est ça.
Donc voilà, ce que je vous dis, c'est un peu au doigt mouillé, je ne suis pas complètement sûr.
Voilà, ouais. Alors bon, ça reste... Pas mal. Voilà. C'est possible à faire, et non seulement, alors pas que sur les actifs numériques, hein, c'est sur la déclaration au global, hein, qu'on peut émettre le doute. Sinon, après, c'est de se faire accompagner par des avocats fiscalistes quand on a des opérations très complexes. Aujourd'hui, la complexité sur la fiscalité liée aux actifs numériques, c'est plutôt tout ce qui est NFT et valorisation de ces actifs-là. Autrement, le reste, en France, on sait très bien fiscaliser, ouais, mettre des règles très claires, il n'y a pas de problème.
On sait très bien. Bon, vous nous avez expliqué comment ça se passait, qu'il fallait effectivement avoir transformé ces cryptos en monnaie sonnante et trébuchante pour rentrer dans le couperet fiscal. Malgré tout, on a un peu l'impression que la fiscalité de ces actifs numériques, c'est encore un peu flou, que voilà, ça va s'affiner, selon vous, dans le temps qui vient ?
Alors oui, on l'espère. Aujourd'hui, pour moi, c'est la clé pour que les institutionnels pénètrent davantage ce marché. Il faut une réglementation, une fiscalité claire et assise, et surtout, on va dire, à l'instar de les réglementations comme UCITS, comme MiFID 2, etc., avoir une harmonisation au niveau européen. Ça, c'est ce qui serait très important pour la maturité de l'écosystème. Aujourd'hui, il y a deux grandes, on va dire, réglementations européennes qui ont été votées, d'ailleurs, dans les deux dernières semaines, il me semble. La première, c'est TFR, qui permet, en fait, qui va obliger les acteurs, les plateformes d'échange, à divulguer les informations lors de transferts, donc le nom le prénom, etc., l'adresse de la personne qui va effectuer le transfert. Donc il y aura un échange automatique d'informations. Alors tout cela vise bien sûr à lutter contre le blanchiment d'argent, la lutte antiterrorisme, etc., etc. Et donc ça va être de transmettre ces informations entre plateformes. La deuxième, c'est MiCA, qui est un petit peu plus connue, qui, elle, va réglementer un peu plus les acteurs qui, par exemple, lors d'émission de nouvelles crypto-monnaies, comme des stablecoins, vont, par exemple, devoir avoir des ratios obligatoires de réserve d'actifs. Vous avez aussi les pertes qui seront vraiment, comme dans le cas d'FTX, par exemple, qui seront vraiment attribuées aux acteurs de ces mm-hmm. plateformes-là. Vous perdez l'argent de vos clients, vous en êtes responsable. Il y a aussi, voilà, d'une manière générale, ce qui vise à la protection des investisseurs et le blanchiment d'argent. Donc c'est une bonne direction. Moi, je suis pour un environnement, alors plus strict, c'est pas le bon mot, mais qui soit en tout cas au même niveau que la réglementation bancaire afin de professionnaliser l'écosystème.
Merci beaucoup Enzo. Enzo Allo pour Crypto Patrimoine ce matin au cœur de cette édition spéciale de BFM Business dédiée à votre déclaration d'impôt. À très merci bientôt. Tout de suite, on continue à vous donner un maximum de conseils.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Et c'est Thierry Vignal pour Mastéos qui est avec nous. Bonjour Thierry.
Bonjour Cédric.
On a pas mal de questions qui sont liées bien évidemment à votre domaine de l'immobilier et qui vont avoir un impact sur cette déclaration d'impôt. Et on vous remercie de nous avoir rejoints pour y répondre. Alors d'abord Thierry, quelles sont les principales différences entre la déclaration de revenus locatifs pour une location nue et une location meublée? Est-ce qu'on peut cumuler des revenus issus de ces deux types de locations?
Oui, alors il y a un schisme en fiscalité immobilière. On a l'impression qu'il a été fait par IKEA parce que c'est l'ameublement qui va déterminer dans quel régime on tombe. Donc on a la location nue qui est liée à ce qu'on appelle un régime foncier. Donc on va, en location nue, générer des revenus fonciers.
Donc ça, c'est un appart normal.
Et c'est ce qu'il y a de plus classique. Et il y a une nouvelle tendance fiscale qui est plutôt favorable à la location meublée. Et là, on va parler de revenus BIC, comme un stylo, donc les bénéfices industriels et commerciaux. Voilà, donc le nu, c'est régime foncier, revenu foncier, et le meublé, c'est BIC.
Mais on peut mélanger les deux.
On peut mélanger les deux. On peut avoir des revenus de location nue foncier et des revenus meublés BIC. Mais en revanche, on ne peut pas choisir des options de déclaration différentes par catégorie.
D'accord, donc tous ceux du nu seront en foncier et tous ceux du meublé
seront en BIC. Après, il y a une option en fait forfaitaire, micro ou réel, et celle-là, elle ne peut pas être mixée au sein d'une même catégorie.
Comment on choisit justement entre le régime micro et le régime réel pour déclarer ses revenus? On ne peut pas les mixer, vous le dites, donc chacun est dans sa case et...
Alors déjà, la différence entre les deux, ce qu'on va appeler micro, donc micro foncier pour les revenus location nue et micro BIC pour le meublé, c'est pour les feignants, c'est pour les phobiques administratifs comme moi. C'est une case et on n'a pas à s'embêter avec un détail de revenus et charges ou d'amortissement. Voilà, il n'y a pas de comptabilité, il n'y a pas d'énergie.
On met juste son montant. Voilà. Et
on a un abattement forfaitaire. Quand on est en micro foncier, il est automatique en dessous de 15 000 euros de revenus, il va être de 30%. Quand on est en micro BIC sur du meublé, il va être automatiquement de 50%. Et en meublé de tourisme, il va être de 71%. Et ces abattements, ça veut dire, en gros, j'ai 10 000 euros de revenus meublés, je ne vais être imposable que sur 5 000. Voilà, basta. En revanche, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace fiscalement, puisque en réel, on va pouvoir trouver de la matière déductible et écraser le revenu, le bénéfice comptable, pour finir à une base imposable de zéro, idéalement, le plus longtemps possible. Et ça, seul le réel le permet. En revanche, ça demande un peu d'énergie comptable.
Ouais, c'est ça. Hein. C'est pas... Il faut être très formel, il faut tout garder. Faut
discipliner,
tout justifier,
ou avoir un très bon comptable. Voilà.
Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on doit déclarer ses revenus en LMNP, donc loueur meublé non professionnel, ou en LMP, loueur meublé professionnel?
Alors, c'est
on
un
se
régime...
décide, on dit je suis amateur, donc...
Voilà, c'est un régime en tout cas qui est hyper à la mode parce qu'il cumule à peu près tous les avantages fiscaux. En l'occurrence, le LMNP en réel, il permet d'écraser, comme on l'a dit, son bénéfice comptable, et notamment via les amortissements, on va le voir, et c'est pas repris à la sortie. Donc c'est un régime qui est très à la mode. Le LMP, un peu moins, c'est très complexe, et ça ne reprend pas cet avantage à la sortie de non-reprise des amortissements. Donc on va essayer de rester au maximum en LMNP, donc non-professionnel. Il y a deux critères pour rester en LMNP. Il faut pas dépasser 23 000 euros de revenus locatifs, et il faut que ces revenus locatifs soient inférieurs aux revenus professionnels non locatifs ou inférieurs à la moitié des revenus globaux.
Donc en fait, faut pas être professionnel, quoi.
Faut pas être pro,
ça dit bien son nom, quoi.
Il faut pas que la majorité de nos revenus proviennent d'une location meublée. Et dans ce cas, on reste dans le LMNP. Voilà. Le cas typique, c'est la personne qui a plus de 23 000 euros de revenus, disons 24, et qui perd son emploi. Et subitement, ces 24 000 euros représentent la majorité de ses revenus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Se marier au plus vite. Et c'est un prétexte romantique.
Oui, là, c'est romantique. Bienvenue. Je t'offre ma déclaration d'impôt. Voilà. Quel formulaire doit-on remplir pour déclarer ses revenus locatifs, que ce soit nu ou meublé d'ailleurs ?
Il y a trois grands formulaires. Enfin, il y en a évidemment plus, mais les trois principaux, c'est le 2042. 2042, c'est le formulaire par excellence. Et là, on a une petite case, la case pour les revenus fonciers, qui est la case 4BE pour le microfoncier et 4BA pour le foncier en régime réel. Voilà. Si on est en réel, il va falloir détailler revenus et charges dans un autre formulaire qui est le 2044. Et donc, une fois qu'on a fait le détail sur le 2044, on reporte le résultat en 4BA sur le 2042.
D'accord.
Ça, c'est pour le foncier. Pour le meublé, on a ce qu'on appelle le 2042C Pro. Et soit on est en micro-BIC, et dans ce cas, c'est une case, c'est la 5ND, facile. Soit on est en réel, et pareil, il faut prendre un autre formulaire, qui est le 2031, détaillé, revenus et charges, et reporter le résultat en case 5NA. Voilà, et le mieux, c'est de passer par un comptable quand on est en réel.
C'est ça. Hein.
Voilà, 2042, 2044 et 2042, c'est pro.
Bon, et on peut déduire le comptable des charges.
En réel du LMNP, oui. Il y a même des réductions d'impôts.
Vous nous avez parlé tout à l'heure d'amortissement de biens, de travaux, de meubles, dans le cadre de cette déclaration en LMNP réel. Comment ça fonctionne ?
Alors l'amortissement, c'est une arme de défiscalisation massive, parce que ça va générer une matière déductible importante pour écraser ce fameux bénéfice comptable et arriver à zéro le plus longtemps possible. Autant en régime foncier où malheureusement on ne peut pas avoir d'amortissement, on va aller chercher des charges déductibles à droite à gauche, ça va être assez dur de générer suffisamment de matière déductible. Autant en LMNP réel, l'amortissement, ça permet de générer une matière déductible hyper importante. Donc on a, en fait, le principe, c'est de dire la peinture, typiquement, elle s'effrite dans le temps, et donc sur 10 ans la peinture elle est morte, il va falloir la refaire, donc on vous autorise à déduire un dixième du budget peinture tous les ans. Donc c'est un amortissement lissé sur 10 ans. Donc si j'ai fait 100 000 euros de peinture et que j'ai amortissable sur 10 ans et que j'ai 10 000 euros de revenus locatifs, et ben j'ai 10 000 euros moins mes 100 000 euros de peinture divisé par 10, moins 10 000 euros. Et donc ça fait zéro. Donc j'ai mon revenu moins mon amortissement de peinture égale zéro. Je ne suis pas imposé. J'ai pris un exemple un peu tiré par les cheveux.
Oui, parce que 100 000 euros de peinture, ça fait...
Ça fait cher le peintre. Et en l'occurrence, on peut amortir le bien hors terrain sur une période... C'est le choix du comptable entre 25 et 40 ans. On peut amortir les travaux, donc en général entre 10 et 15 ans. Alors les revêtements.
Les travaux ?
Oui, tous les travaux. Ça va être sur des durées variables. C'est en général compris entre 10 et 15 ans. Le revêtement, ça va être 5 ans. L'électricité, ça va être 20 ans. Et ensuite, on a les meubles qu'on peut amortir 5 ans, 10 ans pour la cuisine. Voilà. Mais donc, on a des durées d'amortissement qui sont liées à la dégradation naturelle de ces différents postes. Et le but est d'arriver à zéro. Et ces amortissements, on va les mettre sur le CERFA 2033, dont on reportera le résultat en 2042. C'est pro, case 5NA.
C'est très précis. Quelles sont les charges déductibles pour les locations nues et meublées, et comment on les déclare ?
Alors, sur la location nue, on a une liste officielle relativement rigide. Et si une charge ne figure pas sur cette liste, eh bien, elle n'est pas déductible. Donc, c'est toutes les charges liées au bien lui-même. En meublé, c'est beaucoup plus libre. Il n'y a pas de référence à une liste fixe. Et on peut déduire toutes les charges qui sont vraiment liées à l'exploitation du bien. Et typiquement, en meublé, on peut déduire les amortissements, c'est la charge principale du LMNP en meublé. On peut déduire les frais de notaire, les frais d'agence, les frais de compta. Ça, on peut pas parce qu'ils sont, on peut pas le faire en nu parce qu'ils sont pas dans la liste. Donc, beaucoup plus de liberté sur les charges déductibles en meublé. Et pour la petite anecdote, en SCI à l'IS, ça va encore plus loin. On peut même déduire les frais kilométriques, les frais de restaurant avec les agents immobiliers, enfin, tout frais lié à l'exploitation. Donc, dans l'ordre, ça va être le foncier, liste réduite, meublé un peu plus large, SCI à l'IS encore mieux. Et toutes ces charges donc sont à détailler dans les formulaires 2044 pour le foncier dont on reporte le résultat sur le 2042 et 2031 pour le LMNP réel dont on reporte le résultat en 2042, c'est pro. Faut pas se perdre.
Non, faut pas se perdre. On rappelle que le replay sera bien sûr là pour réécouter
en vitesse 0,5.
Ces numéros de case qui nous sont délivrés par Thierry. Quel est le rôle d'un centre de gestion agréé et pourquoi y adhérer quand on loue en meublé ?
Alors, le centre de gestion agréé, c'est quelque chose d'assez exotique, mais d'hyper important, parce que en fait, on n'est pas obligé d'y adhérer, ça coûte 200 euros par an, mais si on n'y adhère pas, les revenus issus d'une location meublée sont automatiquement majorés de 25%. Et même si on regarde dans le CERFA 2042 CPRO, où sont indiqués les revenus meublés, si on n'est pas adhérent à un CGA, c'est une autre case. C'est plus 5NA, c'est 5NK. Et c'est automatiquement majoré d'un quart. Donc, en fait, c'est pas du tout anecdotique. Le CGA, il vient en complément, en général, du comptable. Et donc, on va avoir, en gros, peut-être un peu moins de 1 000 euros de frais de comptable par an et 200 euros de CGA. Et la bonne nouvelle, c'est que 2/3 de ces 1 000 euros de comptable plus 200 euros de CGA sont déductibles en réduction d'impôt direct.
D'accord.
C'est plafonné à 915 euros, c'est la case 7FF du 2042 CPRO. Donc c'est important, et surtout le CGA, il va être en conseil complémentaire, et il va surtout faire des audits préventifs des comptes publiés, donc on est à peu près sûr qu'il n'y aura pas d'erreur et pas de redressement.
D'accord. Donc en fait, on récupère entre guillemets assez vite l'investissement, quoi.
Oui, c'est rentabilisé en réduction d'impôt à hauteur de 2/3.
Vous avez prononcé tout à l'heure les trois lettres magiques de la SCI. On va en dire un petit peu plus. Quand est-ce qu'on doit penser à passer en SCI et du coup, comment on déclare une fois que nos revenus locatifs sont perçus via une SCI?
La SCI, elle permet d'acheter à plusieurs. Alors, on pouvait le faire en indivision, mais c'est beaucoup plus souple de le faire en SCI. Et notamment quand on peut pas emprunter. Je suis un jeune étudiant et je peux pas emprunter. Donc, je vais me mettre avec mon frère qui, lui, a un CDI. Et on va pouvoir emprunter en SCI. Donc, je vais pouvoir profiter du CDI, de la capacité d'emprunt de quelqu'un d'autre, notamment. La SCI à l'IR, à l'impôt sur le revenu, c'est l'équivalent du régime foncier quand on est en direct. C'est une structure translucide, donc je récupère des revenus issus d'une location nue, puisque je suis en foncier, et mon comptable va faire son CERFA 2072 pour la déclaration au niveau de la SCI, et je vais déclarer ma quote-part à moi en tant qu'associé de la SCI sur le 2044, dont le résultat est reporté en 2042. Bref, mais en tout cas, c'est une structure équivalente au régime foncier, revenu translucide, et c'est pour de la location nue. Si on fait plus de 10% de meublé, on est automatiquement requalifié SCI à l'IS. Donc, une tolérance jusqu'à 10%. En SCI à l'IS, on l'a compris, c'est plutôt pour du meublé. Si on passe sous les 10% de meublé, c'est l'inverse, on est requalifié en SCI à l'IR.
D'accord.
L'avantage de la SCI à l'IS, c'est qu'on peut pratiquer ce fameux amortissement qui va permettre de générer de la matière amortissable déductible et d'écraser le résultat. S'il y a un peu de résultat restant, ce qui arrive, il est imposé à la modique somme de 15%, qui est le taux réduit de l'IS, jusqu'à 38 000 euros de bénéfices comptables, on n'est qu'à 15%. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là, parce que c'est l'argent qui reste dans la SCI à l'IS. Si la SCI à l'IS veut distribuer à ses associés, ça ne se fait pas de manière translucide, ça se fait par distribution de dividendes.
Et qui, là, se retrouveront
soumis à une flat tax, le prélèvement forfaitaire unique, ou bien sur option au taux marginal d'imposition plus prélèvements sociaux. La flat tax, elle est de 30%. La SCI à l'IS, quand on a dépassé les seuils LMNP réel, c'est la deuxième meilleure chose qui existe dans le paysage fiscal.
D'accord.
Voilà.
Mais en ayant bien en tête cette histoire de dividendes. C'est-à-dire que si on veut ressortir... Donc c'est plutôt patrimonial. Quoi,
c'est patrimonial, coup, hein. Vision long terme. On n'a pas l'avantage, comme dans le LMNP au réel, de ne pas avoir de reprise d'amortissement en sortie. C'est-à-dire tout ce qu'on a déduit en amortissement, en LMNP en réel, c'est pas repris à la sortie, donc ça n'alourdit pas la facture en sortie, alors qu'en SCLS, malheureusement, ouais. C'est repris. Donc l'idée, c'est vision long terme, je capitalise l'argent qui est dedans, je réinvestis sur d'autres projets, je me distribue le moins possible et je fais une donation à mes enfants.
Ça, c'est donc pour les SCI à l'IS. Juste un petit mot, est-ce qu'il faut qu'on parle de TVA? Parce qu'il y a un moment où, quand on est dans le commercial, dans le ceci et cela, on peut être concerné, non?
La TVA, pour la majorité des cas, les bailleurs ne sont pas concernés, surtout en foncier, hein, il n'y a jamais de TVA quasiment. Et en meublé, il y a une petite exception quand le bailleur fournit des prestations para-hôtelières. Donc il faut en fournir.
Petit déjeuner.
Voilà, 3 sur les 4. Les 4 sont petit déjeuner, linge, conciergerie et ménage. Si on en fournit 3 sur 4, on est considéré para-hôtelier. Donc on est éligible à la TVA si les revenus dépassent 33 200 euros par an. Et dans ce cas-là, on va appliquer 10% de TVA sur ses loyers, mais on va pouvoir aussi en déduire une partie sur les travaux qu'on a payés, sur les meubles, et on va juste calculer le delta entre les deux qu'on va déclarer à l'administration fiscale.
Bon, c'est juste une galère de plus, quoi.
Oui, ça concerne assez peu de monde, la TVA. Bon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que c'est pas mal de passer par un comptable.
Ouais, souvent, c'est des frais. Il faut quand même être accompagné quand on développe un peu son activité immobilière.
Voilà.
Merci beaucoup d'être venu, Thierry Vignal, pour Mastéos, nous parler de tout ça et participer à cette édition spéciale qui continue dans un instant avec Sandra Gandoin. Bonjour Sandra.
Bonjour Cédric.
Votre sommaire hier.
Alors, notre sommaire, déjà en actu, on va parler du projet de loi sur la valeur ajoutée qui est présentée en Conseil des ministres. Et puis, on va parler des âgés. C'est la période des âgés en ce moment. Elles se politisent énormément. Elles sont devenues des tribunes. C'est américain, mais ça vient aussi chez nous. Et on verra notamment si ça se passe chez Total et Carrefour à la fin de la semaine. Et puis, notre invité Simon Bussy travaille pour Rungis Marquez. C'est le cofondateur de Califray qui s'occupe de la plateforme de logistique. On va voir avec lui comment il décarbone cette plateforme. Et puis, effectivement, à partir de 13h, on continue cette édition spéciale pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus. On a deux experts qui vont répondre à vos questions. Vous continuez à nous poser toutes vos questions pour vous, pour votre entreprise aussi, sur la déclaration et sur le prélèvement à la source également. On répondra à toutes ces questions de 13h à 13h30 en direct sur BFM Business. Cédric.
C'est à suivre dans un instant. Le CAC lui perd 1,73%, 7251 points. Et BFM Patrimoine revient demain matin dès 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.